Et bonsoir à toutes, bonsoir à tous. On se retrouve donc pour le débrief comme tous les mardis. Vous connaissez le rendez-vous, tous les mardis 20h pour débriefer le national. C'était la 21e journée ce week-end. Et donc on va y revenir dessus avec avec l'équipe classique que vous commencez à connaître. Notre Strasbourgeois, notre Alsacien Thomas est là bien sûr ce soir.
Ouais, bonsoir Aymeric, bonsoir à tous.
Le deuxième Thomas qui est présent dans quasiment toutes les émissions sur RTS, toujours là et toujours présent dans le débrief.
Exactement. Salut à tous.
Et puis Clément donc que vous retrouverez aussi juste après dans le vélo tour. Clément, c'est un petit peu le Jean-Pierre François de RTS, cheveux longs. Ça aurait été un bon chanteur, je pense, dans les années 70.
Oui, c'est vrai. Bonsoir à tous.
Tu assumes le style chanteur des années 70 au cheveux longs,
pas trop, mais on va faire avec, on va dire.
C'est pas si faux que ça, quand même. Hein. Allez. On est là pour parler foot, donc on va attaquer la 21e journée de championnat ce week-end. Des conditions quand même de jeu difficiles avec le froid, des pelouses abîmées par la pluie, un petit peu boueuses, etc. Ben, au résultat, on a très peu de buts, on a eu pas mal de matchs fermés. Les stats qui montrent ça, ben c'est qu'on a eu que 15 buts en 10 matchs et puis surtout aucune équipe n'a réussi à marquer plus de 1 but quoi. Donc ça nous donne au niveau des résultats 7 matchs nuls, seulement 3 victoires, 3 équipes qui ont réussi à gagner. Et ben du coup les clubs qui gagnent font la bonne affaire de cette journée. Les 3 clubs donc qui ont gagné c'est Nîmes, c'est le Gazélec et c'est Fréjus. On va commencer donc par ces 3 matchs là et on va commencer par celui qui était un petit peu l'affiche de cette journée avec Rouen qui recevait les Crocos Nîmois et Nîmes qui remonte définitivement sur le podium. Ils sont même dauphins maintenant des Chamois Niortais et ils sont allés gagner à Rouen dans le match au sommet. Thomas, on peut dire quand même que c'est presque un petit hold-up des Nîmois, même si les 3 points font du bien.
Oui, c'est un véritable hold-up parce que comme l'a dit le coach Nîmois, ils étaient pas dedans. Enfin, ils étaient submergés par des Rouennais qui exerçaient une pression vraiment forte sur ces Nîmois et les joueurs Nîmois ont réussi par je ne sais quel miracle à réussir à ramener ces 3 points presque inespérés au vu du match. Hein. Alors on passera toutes les petites erreurs d'arbitrage ou d'autres qui ont été signalées par Eric Garcin qui était très remonté après la rencontre. Mais c'est vrai que c'est un véritable dop pas effectué par ces joueurs nîmois. Et ils font par ailleurs quand même une bonne opération classement, les joueurs nîmois, à l'inverse de Rouen qui perd une place et qui se fait devancer par le Gazélec.
Ouais, en fait, Rouen, ils perdent même 2 places hein, parce qu'ils étaient encore devant Nîmes parce que comme c'est la différence de but particulière qui prime dans le championnat national et puis qu'ils avaient gagné au match aller, du coup, même en cas de match nul, ils seraient restés devant les Nîmois. Donc ouais, ils perdent 2 places. Rouen, c'est quand même inquiétant parce qu'ils ont pris quand même 12 points sur les 11 derniers matchs, je lisais ça. Donc c'est un parcours de relégable. Ça, c'est le côté vraiment négatif. Au niveau du côté positif et des moyens d'espérer, on va dire, on a eu un bon match côté rouennais, légère domination en première mi-temps, puis après beaucoup plus d'occasions que les Nîmois en seconde. Ils sont tombés malheureusement sur une équipe de Nîmes 100% efficace qui tombe, en plus inscrit un super but par Koné. Je vous conseille la vidéo qui est d'ailleurs sur le Facebook du débrief du National. Et puis après, ouais, une transversale, un poteau. Tu as parlé des pénalties un petit peu litigieux. Oublié et qui était un petit peu litigieux, ça fait quand même beaucoup pour les Rouennais et ça fait quand même qu'il y a quand même du positif à dégager de ce match.
Ouais, il y a du positif à dégager, mais d'un autre côté, ils sont clairement prétendants à la montée. Et si on est prétendant à monter, on peut pas se satisfaire d'un match avec de bons moments, surtout contre un autre concurrent. Il fallait le gagner ce match, donc c'est pas une chose faite. Surtout que comme tu as signalé, Rouen en ce moment c'est vraiment dans le dur. Sur les 5 derniers matchs, c'est une victoire seulement, une victoire, 3 défaites et un nul. Donc c'est vraiment très 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 maigre. Donc il va falloir vite se reprendre parce que pour l'instant c'est vraiment vraiment dans le dur et bon c'est aussi dû aux absences nombreuses des attaquants.
Du Gimon,
oui, Yannick Chabot et donc ils doivent faire avec ce qu'ils ont sur le moment. Ce qui fait que ça fait aussi un effectif qui est un peu déséquilibré. Mais il faut noter quand même l'arrivée imminente de Rudy Carlier en provenance l'ex-cristolien et strasbourgeois qui a signé un contrat qui est en attente d'être homologué par la DNCG. Donc Rudy Carlier qui est un attaquant qui depuis le début de saison n'avait pas de club mais s'entraînait avec le Racing Club de Strasbourg. Donc est déjà prêt physiquement. Donc il pourra apporter, dès que son contrat sera homologué par la DNCG, apporter un vrai plus à cette équipe rouennaise pour repartir de l'avant et pour repartir sur une bonne base pour pouvoir gagner le prochain match et prétendre encore à la montée.
Carlier, c'est un attaquant, c'est vraiment le pur finisseur ? C'est quoi comme profil d'attaquant ?
Oui. C'est un pur finisseur. C'est pas le petit attaquant rapide, c'est vraiment un renard des surfaces qui a plutôt physique, qui est vraiment oui, c'est plutôt un finisseur et il apportera je pense quand même beaucoup parce qu'il est vraiment présent sur le terrain. Je l'ai vu plusieurs fois quand il jouait à Créteil l'année dernière, quand il était venu à la Méno ou quand il jouait d'ailleurs à la Méno. C'est vraiment un assez bon attaquant qui n'a jamais réussi à percer. Bien qu'il ait joué dans les équipes jeunes d'équipes françaises moins de 19, je crois. Mais c'est vraiment un bon attaquant qui n'a pas réussi à percer, mais qui reste, qui a quand même d'énormes qualités qui serviront, je pense, au FC Rouen.
Ok. On va écouter les interviews d'après-match des deux coachs.
Et on va commencer donc par l'entraîneur de Nîmes.
Et ils ont joué comme des guignols. Oui, ça je le maintiens. Et je pense que, heureusement qu'on avait 6 joueurs qui ont porté le maillot et défendu beaucoup, beaucoup de réussite aussi. Mais sur le contenu, on a été pauvre offensivement.
C'est une réaction un petit peu bizarre quand même de Thierry Frogeet. Certes, il félicite ses 6 joueurs défensifs. On a eu un bon match notamment de Sidi B et de Benoît Poulain, le capitaine, qui l'avait placé en sentinelle devant la défense. Autant, ouais, ça c'est normal qu'il félicite ses joueurs, mais après, comme il démonte surtout les 4 offensifs, alors que bon, on a vu pourtant Nicolas Benezet qui a été trouvé plutôt combatif dans tout ce qui s'est dit sur le match, et puis c'est Doucone qui est quand même un super attaquant, je pense, un des meilleurs peut-être avant-centres du championnat national. Il claque encore un but sur sa seule occasion. Il va rapporter des points au Nîmois. Je trouve que c'est un petit peu bizarre et je sais pas, je pense que ça pourrait avoir des conséquences sur la suite, peut-être pour le club. Après, je sais pas si à ses joueurs il va leur expliquer, mais c'est quand même vraiment bizarre comme réaction.
C'est vrai, parce qu'à chaud, non, je disais juste à chaud, il devait être énervé. Mais ce qui est bizarre, c'est quand même le son cloche de chaque côté. Tu vois, Eric Garcin qui est passablement énervé par l'arbitrage, bon, passons, mais qui a dit, bon, on a quand même vu des belles choses. Et lui, il perd. Alors que de l'autre côté, l'entraîneur Nîmois gagne, mais est vraiment remonté contre ses joueurs comme s'il venait de se prendre une tollée 3-0. Quoi. C'est ça qui est bizarre. Mais bon, d'un autre côté, il a raison parce qu'il aussi prétend à la montée. Et c'est pas comme ça qu'ils vont y arriver.
Ça ne marchera pas à tous les matchs. Quoi.
Voilà, s'il y a 4 guignols, comme il dit, qui sont devant, ça marchera pas à tous les matchs. Même si bon, il a eu peut-être un coup de chance sur ce match parce que quand même avoir 4 joueurs offensifs qui ont été quasiment transparents dans la rencontre.
Ouais, mais je suis pas d'accord, moi, qu'ils ont été quasiment transparents. Ils ont pas eu énormément de ballons non plus. Après, Nicolas Benezet, tu regardes hein, sur le ce qu'en pensent les supporters nîmois, ils sont un petit peu de mon avis. Ils l'ont trouvé finalement plutôt pas mal et il y en avait même qui s'emballaient à dire que c'était un joueur qui avait peut-être le niveau France espoir, mais non, je trouve ça dur moi.
Les occasions étaient pas là, alors bon, lui il pensait peut-être à la montée, il s'est dit que sur le coup, c'est vrai que sa réaction est peut-être un peu
excessive.
Je sais pas comment dire voilà, mais à chaud il devait il devait être passablement énervé. Et peut-être que en prenant du recul, il pensera comme toi et comme les supporters niçois. C'est vrai que sur le coup, bon, c'est un prétendant à monter, mais c'est vrai que je comprends pas trop non plus parce qu'il a quand même gagné. Il a quand même gagné. Et s'il a marqué un but, c'est bien quelqu'un qui l'a marqué. Ce but.
Ouais, c'est vrai. Thomas, ouais, tu as et puis on
change. Non, je veux juste te dire que je l'avais déjà vu cet entraîneur-là, Thierry Frogeais, qui était pas content, même après une victoire, je crois que c'était 4-1, et ils avaient pris un but, il était énervé, quoi. Et au final, ils gagnent 4-1, il dit, ouais, on gagne 4-1, mais bon, vu ce qu'on a montré en première mi-temps, on mérite pas de gagner autant, quoi. Et souvent, exigeant, quoi. Plus qu'exigeant. Peut-être même de mauvaise foi, un peu. Okay.
De mauvais joueur. Allez, on.
J'ai besoin d'un Coca Cola Light. Moi aussi. Oh, il n'en reste qu'un. Franchement, je le mérite parce que.
Non, je reconnais pas. Je suis vraiment de. Putain, d'où ça sort ça.
Tu vas avoir des sites coquins ou quoi?
Mais non, c'était pour Coca Cola Light en plus. Et tu parlais d'Eric Garcin, je vous propose d'écouter sa réaction après le match.
Quand tu vois les joueurs, t'as les boules parce qu'ils ont fait un gros match. Malheureusement, Nîmes a eu une pseudo occasion, ils la mettent au fond. Chapeau à eux.
Voilà, il va conclure, donc chapeau à eux. Et on conclut sur ce match avec cette interview-là. On va passer à une deuxième équipe qui a gagné, c'est le Gazélec. Il se rapproche du podium alors qu'on ne les voyait certainement pas à ce niveau, notamment à la fin septembre. Mais depuis, ils sont impressionnants puisqu'ils viennent de totaliser quand même sur les 11 derniers matchs 9 victoires, 2 défaites. Et là, il n'y a plus de à domicile, ils gagnent. C'est domicile extérieur, tout confondu, quoi. Donc c'est vraiment énorme. Là, ils avaient un duel de qualifiés en Coupe de France face à Orléans. On a eu une première mi-temps fermée comme sur beaucoup de stades avec de rares occasions et c'était notamment sur coup de pied arrêté. Et puis après, en seconde mi-temps, Ajaccio a tenté d'accélérer avec l'impulsion de son capitaine Louis Poggin notamment. Et puis le match aurait pu un petit peu se débrider. Même le Fex côté orléanais qui était rentré était tout près d'ouvrir le score juste après l'heure de jeu. Et puis à l'image de ce match, qui est quand même resté assez pauvre en occasion, la délivrance elle est venue pour le GFCOA sur un coup de pied arrêté, un coup franc assez lointain de Dufault, et il trouve la tête du défenseur Bocagnano dans la surface, qui ouvre le score, et puis qui rapporte 3 points aux Ajacciens, qui vont être très précieux, notamment parce que peu d'équipes ont gagné ce week-end. Côté orléanais, ils sont 11e, mais ils ont quand même 2 matchs en moins. Donc potentiellement, si tu leur ajoutes 6 points, ils sont qu'à 4 points du podium. Bon, après, on n'est pas encore là, ça fait beaucoup d'un peu de science-fiction. Donc voilà. Sinon, pour revenir à ce qui s'était passé par rapport à l'équipe ajaxienne, c'était jeudi dernier, il me semble, dans l'équipe, le quotidien, par rapport au match de Coupe de France. En fait, il y a eu une petite polémique, je ne sais pas si vous l'avez suivi. En fait, le président, il voulait que le gardien titulaire il soit aligné et que ce ne soit pas le numéro 2, contrairement à ce qui avait été prévu en début de saison. Et finalement, les joueurs, ils ne l'ont pas du tout accepté. Ils menaçaient même de boycotter le match. Donc, tu vois un petit peu la bonne ambiance. Et puis, ce mouvement, il était apparemment mené par Marc Santugnone, vice-capitaine et depuis 9 ans au club. Finalement, le président, il a cédé. C'est Lucas Rastello, le gardien remplaçant, qui a joué. D'ailleurs, on l'avait entendu la semaine dernière, sa réaction d'après-match pleine de hargne, on va dire. Et puis suite à ça, le joueur qui avait lancé un petit peu le mouvement, ou alors qui a été désigné responsable, il a été licencié. Mais après, il faut, sur l'équipe, apparemment, il parlait d'un désaccord un petit peu plus profond derrière tout ça, entre la nouvelle équipe dirigeante et l'ancienne, dont faisait partie le père du joueur qui a été licencié. Donc bon, voilà, ça c'est pour l'extra sportif dont on a pas mal parlé pour le Gazélec. On espère que ça va pas leur porter préjudice et puis qu'ils vont continuer sur cette belle lancée, parce que là ça devient quand même impressionnant. 9 victoires sur les 11 derniers matchs.
Le rythme de champion.
Non, c'est clair, hein. Autant on me disait que Rouen sur le dernier match, ils avaient un petit peu un parcours de relégable. Eux, c'est un parcours carrément de champion. Ouais. Thomas, on parle de la dernière équipe qui l'a emporté. C'est Fréjus. Ils font un petit peu la bonne affaire. Ils se placent, eux, on va dire, en tête du peloton. Ils ne sont pas encore à rattraper le groupe de tête, mais ils se sont mis un petit peu premiers des poursuivants, on va dire.
Exactement, oui. Ils ont bataillé pour battre Martigues. Le score de 1-0, le plus petit, la petite la plus petite marge. Et ce qui est assez étonnant, c'est que en fait, ils prennent un carton rouge à la 55e. Donc d'habitude, quand tu prends un carton rouge, t'es un peu déboussolé, tu mets 5-6 minutes à réagir. Et là, c'est l'inverse qui s'est passé, puisqu'ils marquent à la 57e par Scarpelli, donc à 10, ils marquent. Ils se faufilent entre deux défenseurs et ils fusillent le gardien. Et donc, ouais, Fréjus qui, comme on l'avait dit, à domicile, ben, c'est toujours pareil. Ça carbure pas mal. Et donc Fréjus qui pour le moment est il remonte à la 7e place sur la 7 points du podium, mais bon. Je pense pas que la montée soit un vrai objectif. Et par contre du côté de Martigues, ça commence à être inquiétant puisqu'ils sont 17e et le premier relégable.
C'est inquiétant, c'est rien ne va plus là.
Et donc donc dernière victoire de Martigues, c'est le 1er octobre.
Ouais, on l'a dit. Hein.
Donc ça fait quand même loin de loin. Ah oui, c'est clair. Ça fait loin, ouais. Et donc ouais, là ils commencent à être dans la charrette, donc va falloir réagir.
Ouais.
Pourtant ils n'ont pas fait un si mauvais match, hein. Au vu des images. Ils ont rivalisé avec Fréjus et après ils prennent ce but sur une erreur défensive. Mais... Sinon ils n'ont pas fait un mauvais match, mais.
Ouais, après c'est toujours pareil, hein. C'est pas... toujours quand t'es au fond du classement que les matchs tournent pas en ta faveur.
En ta faveur, ouais, exact.
Dans le groupe de tête, donc il y a deux équipes dont on n'a pas encore parlé, Épinal qui a calé à Créteil. Là pourtant Créteil avait vraiment bien démarré le match, avait ouvert le score et Épinal n'a vraiment pas vu le jour pendant les 40 premières minutes. Et puis là après un but gag, il faut dire ce qui est quoi. Entre les défenseurs et le gardien de Créteil, ils se font des passes et puis le gardien la met au défenseur qui lui la remet un petit peu forte, pas vraiment dans les pieds, et du coup ça file au fond des buts et Épinal égalise alors qu'ils n'ont pas eu une seule action. Après bon, ils se créent quelques occasions avant la mi-temps. Il y a Asbabou qui a quand même un bon duel. Alors, en deuxième mi-temps, ça s'équilibre un petit peu, voire Épinal qui prend le dessus, mais Créteil, ils ont quand même encore pas mal d'occasions. Même si, ouais, Épinal, je pense qu'ils ont les occasions les plus franches en seconde mi-temps. Mais bon, je pense qu'ils peuvent vraiment être déçus côté cristolien. On va d'abord écouter la réaction du coach d'Épinal, où je le trouve un petit peu assez positif, moi, par rapport à la prestation de son équipe.
Fin de la deuxième mi-temps, c'est quand même nous qui avons les situations les plus dangereuses. Mainmise, je dirais, complète sur cette deuxième mi-temps. Maintenant, on a manqué d'efficacité et de conviction dans le dernier geste. D'ailleurs, je suis à moitié comblé parce que dans le jeu, dans l'animation, dans le contenu, j'ai vu des bonnes choses. On a essayé de laisser au maximum le ballon au sol, de jouer avec des petits gabarits devant, essayer de les mettre en danger par un jeu de passe abouti. On l'a fait même très bien par moment. Maintenant, je vous dis, il nous a manqué dans les 25 derniers mètres la conviction, le bon geste au bon moment.
Ouais, donc ouais, c'est pour ça que je le trouve quand il disait qu'ils avaient ma mise totale sur la deuxième mi-temps. Créteil, ils ont eu quand même pas mal de situations. Et c'est un peu ce que nous dit Jean-Luc Vasseur, le coach cristolien.
Ah bah les mecs sont tous abattus ce soir après le match parce que on a fait un bon match, un très bon match dans la continuité de ce qu'on avait fait à Bordeaux. Mais depuis maintenant pas mal de temps, on a ces matchs-là. On n'est vraiment pas payé. Maintenant vous avez pu voir qu'il nous manque un petit brin de réussite. Là c'est un but. Bon, je dirais pas gag parce qu'il n'y a jamais eu d'intention, mais ça a des conséquences effectivement sur le match, puisqu'à ce moment-là, Épinal. Oui, puis je crois que ça avait contrarié leur plan de jeu, parce qu'on avait bien vu que 1-0, ils sortaient pas. Donc et c'est vrai qu'on a été un petit. Quoi, ils ont été surpris un petit peu de notre côté. On pensait qu'ils allaient plutôt venir et puis nous chercher plus haut. Puis ça n'a pas été le cas. Donc on aurait pu se faire des passes entre les deux centraux pendant. Reste du match, bon, moi ça ne me dérange pas, hein, étant donné qu'à ce moment-là, voilà. Après, effectivement, sur le nombre d'occasions qu'on s'est faites, qu'on s'est créées, les situations tant en première mi-temps qu'en deuxième mi-temps, voilà, on doit pouvoir scorer, on score pas, et puis ouais, c'est super frustrant, mais encore une fois, c'est frustrant pour mes joueurs qui ont vraiment tout donné encore une fois.
L'usage absent, c'est vraiment important pour ce match.
Non, c'est un super joueur, c'est notre capitaine, c'est notre buteur, effectivement. Il n'y a aucune garantie que ce soir il marque. Je pense que on pouvait rester 1-0. Hein. On pouvait rester 1-0. Jean-Michel aurait pu marquer même le but, mais on restait 1-0. Ce but-là voilà, a des conséquences sur le résultat du match, puisqu'on perd 2 points ce soir. Quoi. Non, on ne s'est pas installé dans la facilité. C'est-à-dire que c'est Épinal qui a déjoué un peu, quoi, qui n'est pas venu nous chercher. Et donc voilà, quoi, ça a baissé de rythme. Il y a eu une espèce de faux rythme pendant un moment. Oui, mais...
Déconcentration, on fait la passe, on repasse.
Ah ouais, mais ça, faut, je sais pas si c'est explicable. Ouais, c'est inexplicable, ouais. C'est irrationnel. Donc, on peut dire que c'est à ce moment-là, mais on aurait pu finir étonnamment comme ça à la mi-temps parce que eux ne sortaient pas. Donc voilà, c'est pour eux, c'est une fin heureuse.
Ouais, une fin heureuse. Là aussi, je vous posterai la vidéo du match de Créteil sur la page du débrief. C'est vrai que le but d'Épinal, il est quand même impressionnant, quoi, pour pas en dire plus. Une autre équipe qui cale dans le groupe de tête, pourtant on avait dit la semaine dernière, pour Vannes, tous les voyants étaient au vert. Vannes réussissait bien à domicile, Cherbourg était au fond du seau, et finalement Cherbourg amène un point de Vannes.
Exact, ouais. Bon, c'est ce qu'on dit depuis le début de la saison aussi, hein. Qu'il faut pas perdre ou perdre des points bêtement face aux petits qui, en plus, Cherbourg était, comme tu dis, au fond du seau. C'est un peu comme une victoire, je pense, pour eux, là. Parce que et surtout que aussi le but de Cherbourg est pas mal. En fait, il y a une passe dans la surface d'un défenseur et après, d'un défenseur vanté en fait, il fait une passe et elle arrive pas à destination donc, le joueur de Cherbourg s'entre en retrait et l'attaquant n'a plus qu'à la mettre au fond, donc voilà. Sinon, ouais, Van avait bien commencé, hein, mais ils ont mal fini. Donc c'est Gaffori qui avait le score à la 22e. Et juste au retour des vestiaires, Cherbourg qui réduit le score, qui recolle le score, pardon, qui égalise, avec un but de Kébé, donc à la 47e, donc juste après le retour des vestiaires. Et donc oui, encore une désillusion pour les Vantais. Donc ça continue. Et bon, au niveau du classement, ça change pas grand-chose parce qu'ils ratent quand même l'occasion de se rapprocher. Ils sont à 3 points du podium et ils auraient pu être à 1 point là, s'ils avaient gagné. Et Cherbourg au classement, toujours à peu près le statu quo, relégable 18e. Et juste ouais, pour comme on disait la dernière fois, là, pour être précis. Cherbourg n'a plus gagné un championnat depuis le 30 septembre.
C'est encore pire que Martigues.
Ouais, ouais.
C'est la même journée, mais bon, c'est encore un jour avant. Ouais. On va écouter quelques réactions.
Ouais. La réaction de Stéphane Lemignan, l'entraîneur de Vannes.
On est d'ailleurs fait un match de cette teneur. Voilà, même si je reconnais que l'équipe de Cherbourg, je pense, a fait un de ses meilleurs matchs ces dernières semaines. Nous, on a été en dessous par rapport à une équipe qui prétend jouer la montée. Voilà, on a été défaillant au niveau technique. On a laissé cette équipe de Cherbourg, en plus, marquer un but qui est, à mon avis, largement évitable. Mais le score, il est tout à fait logique. Et déjà, en première mi-temps, on a eu la chance de revenir qu'avec cet amont.
Donc voilà, c'était pour finir le point en haut du classement. On va parler un petit peu du ventre mou et du bas du classement. Ben là, tout est resté assez serré puisque personne ne creuse d'écart. On n'a pas eu de victoire. La seule, c'était Fréjus. Mais ils sont quand même assez haut dans le classement. On va revenir sur Beauvais qui doit malheureusement concéder le match nul face à Quevilly, comme vous l'avez suivi sur notre antenne vendredi soir. Là, on va quand même... Clément, revenir un petit peu sur ce match-là, parce qu'il s'est passé quand même des choses assez spéciales, notamment dans les 10 dernières minutes avec Beauvais qui ouvre le score à 5 minutes de la fin, Quevilly qui égalise à 3 minutes de la fin, et puis après, juste avant le coup de sifflet final, petit accrochage, début de bagarre et deux cartons rouges, et notamment un pour le gardien de Quevilly et un pour Léonard Mendy côté Beauvais.
Mais oui, des événements, on va dire, extra sportifs qui viennent un peu contraster pour un match qui a certes été haché, mais qui
aurait eu quand même... Haché ou haché, je
haché. Et avec malgré tout une certaine qualité, avec tout s'est déroulé dans les 10 dernières minutes, que ce soit les buts, les cartons, tout s'est passé à la fin du match. En gros, il fallait arriver en retard au stade.
Là, ça gênait pas, quoi.
Voilà.
Fallait pas partir avant la fin, par contre.
Ouais, par contre, ouais, fallait. Ceux qui ont réussi à tenir.
Il faisait froid à Beauvais.
Donc bah, je pense que tu vas être plus complet que moi par rapport à ce match, tout simplement parce que tu as été notre reporter de luxe.
Donc, ouais, on va d'abord écouter la réaction de Brouard pour Quevilly, et après on détaillera un petit peu plus pour Beauvais.
Et bah c'est parti.
Sur le corner, on le comprend, voilà, il va la chercher, il y a un duel qui se forme, voilà, il se rentre un peu dedans. Voilà, après bon, je pense qu'il s'allume un peu, voilà, mais il s'en passe combien de fois pas des incidents, c'est un fait de jeu qui. Il perd deux joueurs, un des jeunes de chaque camp, c'est pas très. Il a manqué beaucoup de psychologie sur ce plan. Et ça, je trouve ça dommageable. On met un jeu de deux, le match est terminé, et puis on n'en parle plus. J'ai été voir, on me dit, bon, j'ai des enfants. La réponse est, j'ai des enfants, je ne vois pas ça sur Internet. Donc la répétition des matchs, voilà, on perd des joueurs pour rien, pour pas grand chose. Je crois qu'ils ne s'en remettent pas compte. Voilà. Et puis, ce que je reproche, c'est qu'ils n'ont aucune projection. Ils ne pensent pas aux sportifs. Ouais. Ils pensent sur l'instant T, mais l'instant.
Il y a la Coupe de France là derrière.
Là, on joue à Ajaccio, il y a la Coupe de France, donc il se fait suspendu pour la Coupe de France. Bah, j'ai été surpris qu'ils se mettent à 5 derrière au début. Alors, je pense que c'était avant tout pour utiliser au maximum la largeur. Chose qu'ils ont réussi à faire sur quelques coups. Je ne m'attendais pas à 5 derrière.
Ouais, donc vous l'avez compris, bah, au début il revient sur l'effet de fin de match qu'on a évoqué. On va parler un petit peu de Beauvais, donc ce dont il parle, ce dispositif avec 5 défenseurs, donc en 5-3-2, avec bah, donc 5 derrière, et puis bah, le but était de faire monter au maximum les latéraux. Donc Beauvais, ils sont parvenus par moment, mais bah, malheureusement trop peu pour arriver à faire la différence. Après le milieu à 3, donc là par contre deux joueurs qui montaient de CFA, donc notamment ben, Anthony Bova et Birama Touré qui faisaient donc leur premier match avec le groupe national. Donc ben, on a vu une grosse prestation offensive d'Anthony Bova qui évoluait un petit peu plus bas que le poste où on le fait évoluer en CFA, en CFA 2. Mais là au milieu, finalement il s'en est pas mal sorti. Il a pris une grosse Il avait confiance puisqu'il tirait tous les coups de pied arrêtés. C'est lui qui délivre son équipe en marquant le but à 5 minutes de la fin. L'histoire elle aurait pu être vraiment belle. Et puis après bah, il y a eu l'égalisation de Quevilly. On a entendu Anthony Bova sur RTS vendredi soir, donc on va pas y revenir dessus. Par contre bah, j'ai eu les réactions à chaud de Birama Touré, donc lui qui est vraiment formé à Beauvais, contrairement à Bova qui a été formé à Brest. Il est originaire de Grenoble, donc qui n'est pas vraiment le régional de l'étape. Mais on écoute Birama Touré donc avec ses réactions d'après-match. Un joueur assez timide pour sa première, mais qui était interviewé par un journaliste également assez timide pour sa première.
Moi, j'ai des impressions sur le match.
On a fait un bon match dans l'ensemble, malgré un terrain difficile. On a respecté ce que le coach nous avait dit de faire. Et on a réussi à ouvrir le score et malheureusement on s'est fait égaliser. Mais bon, on a fait un bon match dans l'ensemble.
Après l'ouverture du score, vous pensiez avoir fait le plus dur. Est-ce qu'il y a eu un petit relâchement? Parce que nous, des tribunes, on a senti que vous reculiez. Alors qu'après, finalement, après l'égalisation, vous avez eu encore des occasions.
Ouais, bah, on a reculé après notre but. Et c'est ce qui a permis à Kevin de marquer. Et ensuite, bah, on défendait plus ensemble. On était moins organisés. Et ensuite, après qu'on ait concédé le but, on s'est remis à jouer. On a eu quelques occasions, mais on n'a pas réussi à marquer.
Sinon, sur le plan personnel, une bonne première, positionnée dans ce milieu à 3, tu as trouvé rapidement tes marques.
Ouais, ça fait 15 jours qu'on travaille ça à l'entraînement et j'ai vite trouvé mes marques et après ça a été.
C'est vrai que toi, ton apport, plus celui de Bova, qu'on a beaucoup apprécié, beaucoup de fraîcheur, vous aussi, j'imagine que ça a dû vraiment vous faire plaisir, en plus d'être tous les deux aussi. Est-ce que c'était ça rajoutait encore plus de plaisir d'être tous les deux pour la première?
Bah ouais, ça fait un moment qu'on joue en réserve tous les deux. On fait des mouvements de jeu en réserve et notre première en national, on était très motivés.
C'est bien. Merci.
Et vous aurez reconnu, bien sûr, notre célèbre Emeric à l'interview.
Ouais, non, mais c'était vraiment sympa, super expérience. Voilà, les joueurs de Beauvais en plus vraiment vraiment dispo. Vous en avez entendu deux sur la radio, donc là ça vous en fait un troisième. On continue avec une autre équipe qui a pas pu concrétiser et prendre des points, c'est Colmar qui pourtant recevait Bayonne, la lanterne rouge du championnat.
Et ouais, Colmar qui n'arrive toujours pas face à une maigre équipe de Bayonne, hein, les Colmariens qui comme à l'image de New York contre Lugnac a dominé cette rencontre, mais n'a pas su gagner. C'est vraiment dommage parce que côté Colmarien, on avait les moyens, on avait ce manque de réalisme encore une fois devant le but, hein, avec Mezrich qui arrive à ouvrir le score en première période, hein, vers la 40e minute, et à la mi-temps ils sont devant au score et ils sont bien dans leur tête puisqu'ils sont vraiment dominateurs, mais en deuxième mi-temps il suffit d'un quart d'heure où ils craquent, où ils sont plus dedans, et Bayonne au contraire à son meilleur moment du match et en profite pour égaliser par Pinot sur une frappe mal réceptionnée par Stéphane Robert, le gardien alsacien, ce qui fait que l'aviron bayonnais qui fait un excellent résultat sur la pelouse colmarienne qui était elle aussi pas vraiment dans un super
état.
Voilà, une pelouse très grasse encore une fois. Et donc c'était vraiment décevant pour les Colmariens. Ils étaient déçus, mais bon, encore une fois, le contenu était satisfaisant pour une équipe qui en début de saison visait le milieu de tableau. C'est pas trop mal, même s'il va falloir apprendre à gagner des matchs contre des équipes prétendues plus faibles, même si Bayonne a montré de très belles phases. Colmar, après le but bayonnais encaissé à un partout, a tout tenté, a eu des occasions innombrables, mais le gardien bayonnais était là présent ainsi que les défenseurs, donc ce qui fait que les Colmariens doivent s'en tenir à ce match nul 1-1, très frustrant. On peut tout de suite écouter l'interview de Damien Haute après le match.
On oublie souvent dans les explications d'un match de foot qu'il y a un adversaire qui a aussi envie d'avoir des points. Donc c'est eux qui nous bougent et c'est nous qui n'arrivons pas à réagir. C'est un combat de boxe. Hein. C'est eux qui nous mettaient plus de coups, c'est nous qui ils nous faisaient reculer. On oublie souvent dans les explications, dans les analyses de match, que c'est pas toujours notre faute, c'est aussi la faute de l'adversaire, et l'adversaire nous a poussés.
On va accélérer un petit peu là, parce que comme donc on a notre invité dans la deuxième partie de l'émission, donc on conclut ce championnat, cette 21e journée, avec donc deux matchs nuls, le Poiré-Survie et le Paris FC qui se sont tenus en échec un but partout, et là donc aussi deux équipes qui n'avancent pas trop dans ce milieu de tableau. Et puis ensuite dans le bas du classement, parmi les relégables, le Red Star a fait son premier match nul de la saison, avec un match nul et vierge 0-0 à Besançon. Voilà, il nous reste à parler de Niort et on va le faire tout de suite en compagnie de notre invité, le joueur des Chamois, Jimmy Roy. Bonsoir Jimmy, donc on est ravis de t'accueillir déjà sur RTS Radio. On va commencer l'interview avec des petites questions, on va dire, classiques, un petit peu catégorie état civil, j'ai mis ça pour un petit peu clarifier tout. Donc nom, prénom, date de naissance.
Bonsoir, moi c'est Jimmy, Jimmy Roy, je suis joueur des Chamois Niortais, je suis né le 8 septembre 88 et je suis né à Paris. Voilà.
D'accord, donc parisien, ton poste au Chamois Niortais?
Mon poste au Chamois Niortais, ça dépend des choix du coach, mais je joue soit derrière un attaquant, un peu en numéro 10, ou soit je joue au milieu de terrain numéro 6. Ça dépend s'il y a des blessés ou des suspendus. Ça dépend des choix du coach aussi. Donc, voilà. Soit milieu offensif, soit numéro 6.
Ouais, et ensuite, donc, tu nous es originaire de Paris. Et niveau football, tu as commencé où?
Je suis né à Paris. Niveau football, j'ai commencé à Argenteuil, dans la banlieue parisienne. Et après, les Benjamins, j'ai commencé à jouer au Racing 92, au Racing Club de France, ouais. Jusqu'en 14 ans. Et puis après, en 14 ans, j'ai signé un contrat aspirant à l'OGC Nice. donc dans le sud de la France. Et puis après ça, bah, j'ai pas été conservé et j'ai signé à Amiens pendant 2 ans. Un contrat stagiaire. Et puis après, bah, j'ai signé en national à Calais, puis successivement au Paris FC et au Chamonix-Niortais aujourd'hui.
D'accord. Ok, donc en fait, t'as pas fait vraiment de centre de formation, t'es passé.
J'ai fait centre de formation de l'OGC Nice pendant 3 ans et ils m'ont pas conservé. Et puis après, bah, j'ai tenté ma chance à Amiens dans un autre centre de formation, mais c'était plus avec. Je m'entraînais avec les pros et je jouais avec la réserve, donc c'était plus vraiment le centre de formation.
D'accord. Ouais. On va parler donc maintenant de ton club actuel, les Chamonix-Niortais. Clément, tu peux nous récapituler un petit peu la saison de Jimmy ?
Eh ben, c'est tout simplement 20 matchs joués sur 21 en début de saison, avec seulement une absence, c'était lors de la 9e journée face au Red Star, match gagné 4-0. Ben, on nous a dit que c'était une blessure.
Oui, c'est ça, une blessure à l'ischio au jambier.
D'accord, ça va mieux depuis que les supporters se rassurent. Non.
Ouais, j'ai préféré, avec le coach et le staff, on a préféré pas prendre de risques. Puis, vu que ça s'est bien passé pour le groupe, on a bien fait. Voilà. Mais oui, aujourd'hui, il n'y a plus rien, j'ai plus de douleur. Tout va bien.
On est rassuré alors.
Ouais, merci.
Voilà, donc après, au niveau de la saison, bon, au niveau des statistiques, j'ai 7 buts marqués en 20 matchs. Un bon début de saison, non ?
Ouais, c'est pas trop mal. Ouais. J'ai mis 7 buts en 20 matchs. J'ai fait beaucoup de passes décisives aussi. Je dois être pas loin de 7-8. Donc c'est pas mal aussi. Voilà, c'est un bon début de saison, comme à l'image du club, quoi.
Bon, heureusement que t'es là pour nous assurer les passes décisives, parce que si on comptait sur les statisticiens nationaux, on aurait eu du mal. Non.
Mais je vous dis 7-8, je suis pas sûr, mais je dois pas être loin de ça. Je dois être peut-être une dizaine, entre 7 et 10. Mais je suis pas sûr des passes décisives. Les buts, je suis sûr, mais les passes décisives, je suis pas sûr.
Après, la définition de la passe décisive, elle pose toujours problème aussi.
Ouais, tout à fait, c'est ça. Si ça pose certains problèmes. Ouais.
On va revenir sur le match à Luznac, donc match nul, un but partout. Luznac, c'est plutôt une équipe mal placée. Comment t'as vécu ce match ? Vous le considérez comme une contre-performance, sachant que bon, comme derrière, ça n'a pas trop gagné, finalement, ça n'aura pas trop de conséquences ?
Non, on savait qu'on connaissait les résultats de nos adversaires en jouant le samedi, de nos rivaux pour la montée, donc c'était un avantage. Maintenant, c'est vrai qu'on savait que si on gagnait contre Luznac, on prenait 10 points d'avance sur le quatrième. Bon, on n'a pas gagné, mais je pense que c'est un bon point de prix, c'est un bon résultat au vu de ce qu'on a produit là-bas, dans un contexte assez difficile. Comme les gens le savent, à Luznac, c'est jamais facile sur leur terrain. Donc moi je pense que c'est un bon point de prix, voilà, il nous servira pour la suite. On perd pas à l'extérieur, on arrive à marquer, c'est pas mal, je pense. Voilà.
Thomas, tu veux poser ta question sur le terrain de Luznac dont tu nous parlais déjà semaine dernière.
c'est vrai que ce terrain, c'est quand même un mystère, parce que moi je sais que Strasbourgeois l'année dernière avait eu beaucoup de problèmes avec ce terrain. C'est quand même un terrain. Est-ce qu'il est droit déjà ?
Il est pas droit, il est en pente, ouais. En fait. Pour que les gens se rendent bien compte, il est un petit peu en pente. C'est-à-dire que d'un côté, il est beaucoup plus haut que de l'autre côté, quoi. Donc c'est quand même inquiétant. Hein. Mais bon, si le terrain il est homologué et si on a le droit de jouer, c'est que la fédération pense que c'est un bon terrain. même si je pense tout le contraire.
Et en plus, vous avez le désavantage de jouer dessus en hiver, donc ça fait encore ça accumule, quoi. C'était un vrai champ de patates ou ça a encore été
joué ? Non, alors pour être honnête, par contre, c'était pas un champ de patates, mais il était quand même assez gras et vers la fin du match, il commençait à neiger, donc ça devenait compliqué. Dans des conditions comme ça, ça devenait compliqué. Pour poser le ballon et notre style de jeu, ça devenait compliqué. Mais on a essayé de faire au mieux.
Ouais. Ok.
Ok, vous avez encore des questions sur le match de Luznac ou on aborde les objectifs des Chamois en général ?
Moi, j'aurais une petite question.
Vas-y.
Bah, du coup, est-ce qu'on peut parler par rapport à ce match en manque de réalisme, entre guillemets, avec notamment un poteau, une barre transversale et quelques belles occasions franches?
Tu peux appeler ça un manque de réalisme.
Un manque de chance, ça peut être aussi. Hein.
Je sais pas si on peut appeler ça comme ça. C'est vrai qu'on touche les, on touche les montants par deux fois. Le gardien fait un bel arrêt. La deuxième, c'est une frappe assez lointaine. Elle touche le poteau. Bon, je dirais pas que c'est un manque de réalisme. Honnêtement, on a réussi à marquer assez vite après l'ouverture du score. On a eu quelques occasions, c'est vrai, mais non. On a été costaud et je pense que c'est pas un manque de réalisme. On n'a pas eu de réussite, quoi. Voilà, c'est tout.
Voilà.
Voilà, on va dire ça comme ça.
On est peut-être plus d'accord sur le terme un manque de chance que.
Voilà, un manque de réussite, pas un manque de réalisme. Ouais. Autant contre Orléans en Coupe de France la semaine dernière, c'était un manque de réalisme, autant là, c'est un manque de réussite, je pense.
Ok, pour parler plus en général de la saison, je voulais savoir quels objectifs le coach vous a fixé, enfin l'équipe dirigeante, ils vous ont fixé en début de saison. Est-ce que vous parliez déjà de monter?
Oui et non, quoi. On en parlait sans en parler, c'est-à-dire que le coach nous disait de prendre des points tout de suite, essayer de gagner le plus de matchs possible, et puis. À la trêve, on verrait où on sera. Et aujourd'hui, à la trêve, on a vu qu'on était en haut, donc maintenant l'objectif est clair, quoi. Maintenant, on peut plus se cacher, donc l'objectif c'est la montée. Mais en début de saison, c'était de gagner le maximum de matchs et essayer de voir à la mi-saison où on allait être. Donc voilà. Et vu que la première partie de saison s'est bien passée, maintenant on joue la montée.
Ok, et est-ce que il y a un match où justement ça a vraiment été un déclic et vous avez vraiment décidé que maintenant il fallait jouer à fond la montée, quoi? Est-ce qu'il y a eu un match déclic?
Je pense pas qu'il y ait eu un match déclic. Je pense que le déclic il doit être au niveau de nos performances à domicile, où on voit qu'à domicile on a perdu qu'un match et où on devait pas vraiment le perdre. Donc voilà, mais sinon il y a eu une grosse performance à l'extérieur contre Orléans où on a gagné 5-1. Là, c'est vrai que on peut appeler ça un déclic, surtout vu nos performances du début de saison à l'extérieur. Mais ce match d'Orléans nous a vraiment fait penser qu'on pouvait monter. Mais c'est aussi grâce à notre parcours à domicile qu'on monte, franchement, si on y arrive.
Et justement, d'accord, quand tu parles d'Orléans, je veux savoir ton sentiment par rapport au match de Coupe de France.
C'est-à-dire mon sentiment,
est-ce que vous êtes parce que moi je me suis dit ils vont être parce que moi je vous voyais passer.
Ouais,
Niort était en forme et Orléans pas trop mal, mais bon, Niort était au-dessus pour moi, donc je me suis dit ça va peut-être leur mettre un coup sur la carafe, mais
c'est vrai que tout le monde nous voyait passer, on n'a pas pris ce match à la légère du tout. Si certaines personnes pensent ça, mais on n'a pas pris ce match à la légère, on l'a dominé de la première à la 90e et ils ont fait deux tirs, ils ont marqué deux fois, un sur coup de pied arrêté et un sur un manque d'inattention défensive. Ce match-là, on doit jamais le perdre, quoi. On domine et en deuxième mi-temps, ils dépassent plus le rond central une fois. Mais non, on n'a pas pris un coup sur la carafe parce que on voit qu'on a dominé notre sujet, on voit que on a réussi à se créer énormément d'occasions et que voilà, là, c'était un manque de réalisme pour ce coup-là.
Voilà. Ok. Vous avez encore des questions sur Niort ou on aborde le reste de sa carrière?
Est-ce qu'il fait beau à Niort?
Là, il neige en ce moment, donc à mon avis, il gèle et il neige. Donc.
Vous avez entraînement aujourd'hui?
Ce matin, on a eu un petit footing. On a eu un petit footing pour ceux qui ont joué, qui ont commencé le match samedi à Duzenac. Et pour le reste du groupe, un entraînement un petit peu plus poussé. Mais il neigeait fort, donc l'entraînement a été écourté.
Donc on est d'accord que l'entraînement, c'était plutôt bataille de boules de neige, quoi?
Non,
même pas.
Non, c'est... non, elle tenait pas encore vraiment à cette heure-là ce matin, donc ça aurait été cet après-midi, on serait plus amusé. Mais non.
Et donc là, et la semaine là, à Niort, vu que vous avez le match ce week-end, comment au niveau des entraînements, ça va être perturbé, tu penses? Ça va être comment?
Ah, je pense, parce que là, bon, il a arrêté de neiger, alors on va. Ouais, je pense que cette semaine, ça va être compliqué, parce que ils annoncent des températures négatives et que ça risque d'être compliqué comme partout en France, je pense, hein, cette semaine.
Ok, juste bah pour, on va revenir, pourquoi le choix de Niort? Parce que quand tu quittes le Paris FC pour rejoindre Niort à l'intersaison, au mois de juillet, on voit pas forcément la progression de passer d'un club à l'autre. Le Paris FC, c'est un club qui chaque année a des ambitions dans le championnat national. Tu nous as dit au début que Niort, il fallait d'abord engranger des points avant de définir des objectifs. Pourquoi ce choix? Pourquoi un tel transfert?
Pourquoi ce choix? Pourquoi ce choix? Tout simplement, c'était purement sportif, quoi. J'avais fait deux ans au Paris FC, où la première année, je pense qu'on avait l'équipe pour monter avec une grosse équipe, et on l'a pas fait. La deuxième année, c'est moins bien passé, et c'est purement un choix sportif. Ou quand j'ai joué contre Niort, voilà, j'ai vu que c'était une équipe qui joue au ballon, qui avait un schéma de jeu bien défini et qui était une bonne équipe de nationale. Alors après, c'est vrai que ce choix a paru un petit peu bizarre, on va dire. Mais non, c'est un choix sportif. Et puis je pense qu'à Paris, avec tout l'environnement qu'il y a, l'environnement parisien, c'est impossible de faire quelque chose là-bas. Donc, ouais, enfin, c'est mon ressenti personnel. Même s'ils mettent des moyens financiers, même s'ils font venir des joueurs, c'est compliqué de réussir à faire quelque chose au Paris. C'est compliqué.
Voilà, d'accord. Et là, t'avais décidé de changer de club avant qu'il change l'entraîneur?
En fait, non. Après, bon, c'est vrai qu'avec le coach Vanucci, ça se passait bien. Même très bien, on s'entendait bien. Donc, voilà. Après, moi, quand j'ai su que lui ne restait pas, ça a été encore une double raison de quitter le club, quoi.
Voilà. D'accord. On va prendre une question d'auditeur qui a été laissée sur le Facebook de l'émission. Donc Jason Driancourt, je pense, c'est un supporter des Chamois. Il te demande si vous montez cette saison, est-ce que tu resteras à Niort?
Si on monte cette saison, je pense qu'il y a de fortes chances que je reste à Niort. Oui.
Et ouais, si vous montez pas?
Si on monte pas, bah, on verra ce qui se passera.
De toute façon, pour l'instant, on n'en est pas là.
L'avenir nous dira, mais on va tout faire pour que les Chamois montent et que je reste au club l'année prochaine. Voilà. Moi, mon objectif, c'est ça. Après, on verra comment ça se passera.
Ça serait donc de découvrir la Ligue 2 aussi.
Ouais, ce serait de découvrir la Ligue 2. Et c'est vrai que j'ai jamais signé un contrat professionnel, que j'ai jamais joué en Ligue 1 ou en Ligue 2, donc c'est pour ça que c'est un objectif principal pour moi, quoi, d'essayer de tutoyer le monde pro, même si à Amiens je m'entraînais avec les pros, mais j'ai jamais joué avec eux. Là, ce serait vraiment de pouvoir y goûter, quoi.
Ouais, et puis passer du contrat fédéral au contrat pro aussi, ça serait une sacrée progression dans ta carrière à titre personnel.
Ah, c'est ce que tout jeune joueur rêve d'avoir quand on joue au foot, hein. c'est d'être professionnel. Bon, en national, on est limite professionnel, on fait tout comme, on n'a pas de travail à côté, on a deux entraînements par jour, il y a des structures bien, mais il n'y a pas le contrat professionnel. Il n'y a que ça qui différencie là les deux nationaux.
Ouais. Après aussi au niveau des clubs, c'est les moyens qui changent avec la télé, un championnat beaucoup moins exposé. Est-ce que toi tu le ressens en tant que joueur à Niort?
Bah oui, je le ressens. Oui, même si à Niort on a la chance d'avoir beaucoup de monde au stade, on a quand même une influence qui est plutôt pas mal à chaque match à domicile. Donc je le ressens. Oui et non. Il y a la télé qui vient de temps en temps. Je crois qu'on a été télévisé contre Épinal. Une fois cette année, en étant premier du classement, donc c'est assez paradoxal, quoi, être télévisé une fois quand t'es premier du national, c'est compliqué, mais bon, c'est comme ça. Moi, ça fait 3 ans que je joue en national, 4 ans maintenant. Je me suis habitué à pas avoir la télé, pas avoir des flashs qui crépitent de partout. C'est l'antichambre du monde professionnel, hein, mais c'est comme ça. C'est pour ça qu'il faut. C'est pour ça qu'il faut
monter. Et, et par rapport à la montée, une question aussi qui revenait pas mal sur des internautes. Dans le vestiaire, vous êtes assez confiant pour la montée ou vous voulez pas encore trop, on va dire, vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué?
On va dire plutôt que, je dirais plutôt comme toi, qu'on va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Donc. On va pas, il reste encore, je sais pas combien de matchs, il doit en rester encore 18. Ouais. Ça fait énormément de matchs, quoi. Ça fait beaucoup. Donc, on va prendre les matchs les uns après les autres, essayer d'en gagner un maximum et d'engranger le maximum de points. Et puis voilà, mais dans le vestiaire, on se dit pas qu'on va monter sûr. On dit qu'on est bien placé. Mais
vous vous cachez pas non plus, quand même.
On se cache pas non plus. On en parle, voilà. Mais bon, il y a que le travail qui paye. Donc, si on arrête de jouer là, si on fait des cons, on montera pas. Travailler, ouais, faut rien lâcher. Voilà, c'est tout. C'est ce qu'on se dit. Ça, par contre, ça, on se le dit.
Ok. Vous avez des questions ou on...
Ouais, moi juste.
Vas-y.
Jimmy, je sais. Enfin, il paraîtrait. J'ai vu ça que cet été, tu avais été aussi contacté par quelques clubs de Ligue 2, comme Clermont, Châteauroux. Est-ce qu'il y avait des réels contacts ou c'était juste des rumeurs?
Non, il y avait quelques contacts, mais c'était pas des contacts concrets, quoi. C'était pas, j'avais pas un contrat proposé sous la main, quoi. Sinon, j'aurais pas hésité, hein. Mais, c'était des contacts, des prises d'informations, j'en ai eu une aussi avec Van, mais ça s'est pas fait, donc, voilà pourquoi j'ai choisi les Chamois, quoi. Mais, c'était des petits contacts, c'était pas des contacts concrets, hein. Pour répondre à ta question.
Ok.
C'était juste de quoi faire vendre du papier à la presse. Quoi.
Tout à fait, on peut faire ça comme ça.
Thomas, t'avais une question?
Non, mais ils viennent de répondre parce que je voulais demander s'il y avait eu des propositions de clubs plus huppés par le passé. Il a déjà répondu. Donc...
Et on avait parlé. On avait parlé aussi, Thomas, je pensais que c'était ça que tu voulais poser. Est-ce que tu as une, je sais pas, on peut pas dire exactement. Un modèle, mais un joueur dont tu t'inspires à ton poste et que tu regardes pour essayer de t'améliorer? Ouais, je sais pas, on peut pas vraiment utiliser un modèle, mais c'est quand même un petit peu l'idée, quoi.
Ouais, mais il joue plus au foot, alors c'est compliqué. Non, c'était, moi j'adorais Eric Cantona, c'est mon idole.
Ah ouais, Eric Cantona, mais c'est pas tout à fait le même poste par
rapport. Ouais, lui il jouait plus en pointe, mais il aimait bien décrocher comme moi, prendre le ballon dans les pieds et tout ça. Puis son caractère, sa manière d'être, j'aimais bien. Voilà.
Caractère, t'as pas le même. Quand même, quand le coach te demande de jouer 6, toi tu lui fais pas du Cantona.
Ah ouais, non. Non, mais
t'as
sinon.
T'as pas frappé.
Pardon?
Non, ouais. Je veux dire, t'as pas frappé de supporter encore.
Non, ça je
non, bah ça va alors.
Je cautionne pas non plus, mais bon, ouais. C'était le personnage, quoi, que j'aimais bien.
Et par rapport à ça, t'as un club que tu supportes ou auquel t'as une affection, tu t'apportes une affection particulière depuis ton enfance, je sais pas.
Bah ouais, c'est le PSG, moi, depuis que je suis tout petit. Même si Cantona a joué à l'OM, moi c'est le PSG depuis tout petit. Mes parents m'amenaient au stade, mes frères m'amenaient au stade, donc c'est le PSG. Voilà.
Et justement, t'en penses quoi de ce nouveau PSG?
J'en pense du bien et du moins bien. Je pense qu'ils auraient pas dû dégager Camboiré, mais bon. Après, avec le pouvoir économique qu'il y a maintenant au PSG, c'est devenu compliqué. Donc voilà, mais non, j'en pense du bien. Ils sont le premier du championnat, ils gagnent deux matchs. À part la déroute au Vélodrome, à part ça, il y a rien qui me dérange.
L'argent des Qataris, toi, tu trouves ça une bonne chose dans le foot?
Moi, pour le championnat de France, je trouve que c'est une bonne chose, voilà, parce que pour la Ligue 1, ça devient plus attractif, il y a plus de gens qui regardent le championnat de France, et puis voilà, il y aura plus de stars dans le championnat, donc voilà. Après, mais par contre, c'est vrai que ça fait un déséquilibre entre le PSG et les autres clubs. C'est ça qui est un petit peu embêtant, quoi.
Mais les autres clubs arriveront à en tirer profit aussi, si.
Oui, c'est une manière de voir les choses.
Entre supporters du PSG, on aime bien se dire ça aussi.
Ouais. Non, mais moi, Moi, le PSG, voilà, c'est cap de cœur, cap de naissance.
Et d'accord. Justement, un sujet, comment tu vois ta future concurrence dans 2 ans avec Pastore au milieu de terrain du PSG?
Ouais, mais d'ailleurs, bah, pour répondre à l'ancienne question que tu m'as posée, ou que je sais plus m'as posée, mais pour revenir à mes idoles ou à mes modèles, c'est vrai que j'aime bien ce style de joueur comme Pastore, qui joue en 1-2 touches de balle et qui voit le jeu avant. Et qui a une bonne vision du jeu, quoi. C'est vrai que ce genre de joueur-là aussi, j'aime beaucoup. Mais pour en venir à la concurrence avec lui, je pense que si je veux réussir à déjà le concurrencer, il va falloir que je travaille énormément. Voire même beaucoup, parce qu'il est bien loin devant moi, là.
Voilà. Ok, merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Sinon, on va conclure avec donc la partie, les 5 questions avec l'invité qui nous débriefe le national. On fait ça ou vous avez encore des petites questions?
Non, je pense que les dernières questions vont être sympas, ça, franchement.
Donc on finit sur ça. Donc ouais, l'invité débrief le national, donc 5 petites questions, et puis toi, bah, tu nous donnes tes ressentis. Alors le premier, ton meilleur souvenir cette saison?
Mon meilleur souvenir cette saison je dirais, bref, non, pas de meilleur souvenir. En championnat, je dirais la victoire à Orléans, où on avait fait vraiment un gros match collectif, même si j'avais pas marqué. Et après, bien sûr, le match de Coupe de France contre Brest, où j'ai marqué grâce à l'aide du gardien. Et voilà. Mais ouais, en championnat, c'est à Orléans où on a fait un gros match à l'extérieur, et en Coupe de France, le match contre Brest. Ouais.
Ok, l'adversaire qui t'a le plus impressionné?
L'adversaire qui m'a le plus impressionné cette saison en national.
Il va dire personne.
Non, honnêtement, si. Non, parce que je suis pas comme ça. Il y a le Gazélec au match aller qui m'a impressionné pour le premier match du championnat où on avait gagné 2-1 chez nous et c'était difficile. Et après, il y avait Nîmes chez eux qui avait fait une grosse première mi-temps, mais où nous, on avait vraiment été en dessous. Quoi. Vraiment, on n'avait pas joué à notre niveau. Mais sinon, c'est cool.
D'accord. Et le stade, le plus beau stade dans lequel tu es joué?
Cette saison?
Ouais, cette saison.
Bah, l'année dernière, il y avait le stade de Strasbourg, qui était pas mal. Il y avait la licorne aussi. Moi, je dirais pas Furiani parce que c'était chaud.
Ah, bah, tu vois?
Non, mais parce que Thomas, chaque semaine, il nous critique les Corses, donc du coup.
Non, je ne dirai rien sur les Corses. Je m'abstiendrai de ce sujet. Non, il y a les stades comme Niort, comme Nîmes, les Costières, stade de Strasbourg, il y avait le stade de Reims il y a 2 ans avec le PFC. Il y a quelques beaux stades en national. Voilà.
Et justement, c'est pas forcément lié au beau stade, mais le déplacement que tu considères le plus difficile cette saison.
Cette saison, je pense que ouais, mais le Gazélec, on y va le dernier match, donc j'espère que d'ici là, on aura une bonne nouvelle. Il y aura le Poiré-sur-Vie là dans pas longtemps, où ça risque d'être un derby, où ils sont pas très loin non plus. Voilà, mais sinon non, le Gazélec, on le redoute un petit peu. Tous les matchs en Corse sont jamais faciles à jouer.
Ok. Voilà. Et on va conclure l'interview. Jimmy Roy cette saison, qui sera champion?
Les Chamois Nortons.
Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup en tout cas. C'était vraiment sympa à toi. On a passé un bon petit moment ensemble. Et ça faisait vraiment plaisir de voir des joueurs qui se prêtent au jeu des interviews et puis qui prennent du temps à nous consacrer.
Franchement, merci à vous parce que vous êtes une bonne petite équipe et voilà, les questions sont pertinentes et voilà, tout se passe bien. Donc franchement, c'est cool et j'espère que votre radio continuera pour le championnat national.
Ben merci. On va juste finir avec le petit cadeau que chaque invité nous fait. Tu nous dis juste Jimmy Roy des Chamois Niortais sur RTS Radio.
C'était Jimmy Roy sur RTS Radio.
Qui tu nous conseilles d'inviter Deschamps Moignorté pour une prochaine interview?
Alors, pour tout vous avouer, il y a quelqu'un qui est en face de moi.
Donc, on va faire, t'as le droit de donner deux noms.
Il y a quelqu'un qui est en face de moi et qui me menace et qui me dit non.
Putain.
Donc, et pour le faire chier, je vais dire Paul Delecroix, le gardien.
Bon,
qui est un bon ami à moi et qui vous entend depuis tout à l'heure d'ailleurs. Je dirais Simon Ebras. Voilà, l'attaquant des Chamois Nerfés. Et lui, c'est un bon client. Vous allez bien
arriver. D'accord. Merci, ben je retiendrai ça. Voilà.
Et je le forcerai à le faire, dans tous les cas.
Ah, ben nickel, ça.
Ah, ben merci beaucoup.
Voilà.
Ok, ben merci bien, on va te libérer. Et puis, ben remercie aussi Pascal Landé, si tu le vois, parce que ben, c'est aussi lui qui nous a permis de te contacter. Ouais. Et ben, lui aussi, son apport, il a été vraiment super, super sympa pour notre radio.
Ouais, ben, lui aussi, vous pouvez le prendre à Calou, hein, il se prêtera au jeu, lui aussi.
Ah, c'est aussi un bon client.
Il préférait déléguer.
C'est un très, très bon client, lui. Non, mais ouais, je le remercierai, il n'y a pas de problème.
Ok, ben donc on te remercie encore une fois, Jimmy, de t'être prêté au jeu de l'interview. Donc c'est la fin du débrief. Tout de suite, Clément, ben, c'est le vélo tour. Et puis nous, ben, on se rejoint ben, mardi prochain. On se retrouvera pour la 22e journée du championnat national avec un nouvel invité. Ça sera Stéphane Vincent, le joueur du FC Rouen.